avec Sarah Grouchka du siège de Leningrad. À bientôt.
Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être, être. Tiens, la goule du Malibran ou la divine peut-être, être. À les années 30, 31, monsieur de truc ou de machin, tu prenais ta vertu et t'avais pignon sur la rue. Je me serais payé dans mon fiacre un drôle de tour du monde, monde. Et les montagnes au lac, je l'aurais dansé ma ronde, ronde. En bas à beauté dans mon fiacre, et toi chapeauté, chapeau claque. On s'en serait allé à les fouettes cochées. Et viens, viens donc voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Non, mais t'imagines, au lieu de ça, je trime. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. On peut rêver, rêvasser à ce qu'on aurait voulu être. C'est foutu, c'est classé, ce n'est pas plus mal peut-être. Être là la fin du jour, gueule d'amour. C'est bientôt la nuit, gueule de nuit. En robe de lumière, je serai à mon affaire. Viens, après tout l'automne, dans le petit matin, quand le ciel s'étonne, on verra ça demain. Viens, la ville s'allume et Paris s'enflume. Après tout l'automne, dans le petit matin, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on s'aimait si bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui m'étonne. Tu la la la. Je suis ta souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Y en a que c'est de Saint-Denis, moi que c'est de Montparnasse.
Rien n'est comme il devrait être. Le maître, plus que le valet, elle l'est. Souvent d'une pauvre fille qui brille, les pieds en sabots sont beaux. Dans l'église et la guinguette qu'il guette, le diable survient, il tient. par sa guimpe et son air rude, Gertrude, et par son chignon, Ninon. Le destin, ce dieu sans tête et bête, a fait l'animal formal. Il fit d'une fange immonde le monde et d'un fiel amer la mer. Tout se tient par une chaîne de haine. On voit dans les fleurs des pleurs. Homme, mon frère, nous sommes deux hommes et plein de venin de nains. Car ce globe où la mer tremble nous semble pour notre appétit petit. Nous manquons sur sa surface de place pour notre néant géant.
C'était frais noir, les smiglutos sur l'au-delà de girée et framblée. Tout marais que vaguaient les borogos, les marfs longues et puis pénoflées. Oh, Jabberwock, prends bien garde, mon fils, à sa dent qui mord, à sa griffe qui a peur. Car l'oiseau jubjub et laisse en paix le frumieux bander Snatch. Le jeune homme à la main, son glaive vorpelin, longtemps cherché le monstre m'anxité. Puis s'est reposé sous l'arbre tepté, des heures il a passé sans bouger. Pendant qu'il s'en maturait de suffèches pensées, le Jabberwock, l'œil flamboyant, si volant par le bois vermoussé, arrivait en terriboulant. Une, deux, et tout à travers le glaive vorpelin virevolte, il l'assaille jusqu'à la mort, prend la tête du corps et s'en retourne galonfant. Et tu es le Jabberwock dans mes bras, mon fils rayon noir, au jour frabieux, calou, calé. Le vieux glouffé de joie. C'était frais noir, les smiglutos sur l'au-delà de girée et framblée. Tout marais que vaguaient les borogos, les mâts flangués puis bénoflés.
Hey, Pauline Museau, à la sonne comme à la ville. Hey, Sam Sylvis, à la sonne comme à la ville. Salami, hey, dans le décoiffé, d'envergure au moins nationale. Qu'as-tu déshabillé tordu à ma vertu? Hey, Pauline Museau, alors c'est qu'est du Saint Graal. Hey, inexpliqué, se penchant pour la tour de Pise. Hey, hey, nos
passerait pour un mannequin.
Encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct mais en retard, par ses adhérents, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, sur leur 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Édito du lundi 15 avril 2024 du Monde Merveilleux du Travail, nous retrouvons Jean-Michel Rodrigo pour une troisième rencontre autour de son film documentaire via El Salvador. Nous allons ce soir évoquer donc l'activité politique de la ville autogérée et plus particulièrement l'action des femmes ou les femmes dans l'action d'ailleurs. On retrouve aussi Jean-Manuel, qui est de la partie, et ce depuis la première émission du 6 février, avec qui nous avons poursuivi le commentaire le 18 septembre 2023, que vous trouverez sur le site radiolibertaire.net. Coupez le chat, dis donc.
Pauvre bête. Pauvre bestiole.
Ah ben, on va quand même s'écouter une petite chanson. Tout le monde vient d'arriver, en fait.
Tout le monde vient d'arriver.
On va écouter Lucha Reyes. Bah, on va dire bonjour, hein, quand même. Jean-Michel.
Bonjour.
Voilà, je m'entends ta voix, puisque notre technicienne puisse faire les réglages. Et Jean-Manuel.
Et puis, s'il faut absolument que les réglages soient faits pour une voix d'or, c'était celle de Jean-Michel, bien entendu, la voix d'or. Moi, c'est la voix d'aluminium. Non, c'est la voix de vieux fer rouillé dans un. Un truc qui sort d'un égout et puis 40 ans.
Jean-Manuel, tu parles trop fort.
Oh, bah, zut alors.
Eh bien, Bénédicte va nous lancer Lucha Reyes.
Ah, grande.
Extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus labios.
latidos, la voz de mi dolor. No dejes que muera sin decirte adiós.
Eh bien, c'était Lucha Reyes qui nous interprétait Regresa. Regresa.
Comment Regresa.
Regresa. Voilà.
Reviens, reviens.
Reviens.
Moquez-vous.
Non, pas du tout, pas du tout.
Eh bien, toi, justement, tu reviens. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a mis cette chanson.
Ouais.
Et puis, alors, c'est vrai qu'on avait évoqué dans les précédentes émissions, qui étaient de l'année dernière d'ailleurs, on avait présenté déjà le film documentaire, on avait parlé de la construction de la ville, hein, de la ville autogérée. Et puis après, on a parlé du développement économique, quelque part. Enfin, oui, si, le développement économique. Et ben, aujourd'hui, on va peut-être parler de l'aspect plutôt politique de la ville autogérée, des habitants de la ville autogérée.
Peut-être que ce serait une bonne idée de juste de rappeler un chiffre super intéressant qui était au début fondé par en gros combien de personnes et maintenant il y en a combien ?
Voilà. Première semaine, enfin, premier jour, ils sont quatre larrons. Première semaine, ils sont 1000 et moins d'un mois, ils sont 100 000. Et maintenant, ils sont, c'est plus difficile d'ailleurs à évaluer, mais on va dire qu'ils sont aux alentours de 500 000. Donc c'est une. Une ville, c'est une grosse ville. C'est une grosse ville.
C'est déjà pas mal, 500 000, ouais.
500 000 habitants, c'est une grosse ville. Okay. Et à l'époque, c'était, on va dire, il y avait quasiment 30 km de désert qui séparaient les premières maisons de El Salvador avec les derniers quartiers de Lima. Et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Les deux villes se touchent.
Ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, l'île El Salvador, en gros, en fait, spatialement, maintenant, elle fait partie de. On pourrait presque dire qu'elle fait partie de Lima.
De la mégapole, ouais.
Donc ça, c'est quand même bien un espace.
C'est énorme.
Alors, je ne sais pas si j'y vais trop vite, mais il est encore autogéré.
Non, on va parler là. Hein, ça va pas le faire. Hein. Il faut commencer. Hein.
On va pas tout refaire.
On va pas tout refaire.
Ah, on peut. Effectivement, il y a peut-être aussi des auditeurs, des auditrices qui vont pas écouter, qui vont pas réécouter. Bref, il faut les intéresser. Donc,
je blague. L'autogestion, c'est quelque chose qui a survécu de manière. Alors, qui a vécu pendant pleinement et totalement pendant, on va dire. Allez. Une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, où c'est ça qui était quand même le mode d'organisation dominant. Et après, il y a eu, je crois que je vous l'avais raconté, il y a eu plusieurs épisodes compliqués pour la ville, et en particulier le fait qu'à un moment donné, dans les négociations qu'ils ont eues avec l'État pour l'accès à l'eau, à l'électricité, à la construction des routes, des hôpitaux, les aides, puisque eux, ils faisaient la majorité du boulot, on leur a imposé en contrepartie, dans une sorte de bras de fer social, le fait que au lieu d'avoir exclusivement comme forme d'organisation la communauté urbaine autogestionnaire de Villa El Salvador, on leur a dit, c'est bien que vous soyez comme les autres aussi, il faut que vous ayez une mairie, une mairie avec des élus, avec voilà. Et donc le fait qu'il y ait eu cette mairie qui a bossé main dans la main pendant très longtemps avec la communauté urbaine autogestionnaire, ça, il n'empêche que ça a créé, entretenu, développé, permis le développement d'un certain nombre de confusions qui fait que l'organisation extrêmement autonome de la ville a perdu en vigueur. Mais de toute façon, c'était aussi dans le phénomène de la dilution, c'est un très mauvais mot, de l'intégration, pas dilution, l'intégration de cette ville dans un ensemble qui était une capitale et dans un ensemble qui était un pays. Soit ils faisaient la révolution tout seuls et puis ils s'indépendantisaient et puis ils restaient là, soit à un moment donné, bah, ils étaient en négociation permanente avec le reste du pays et donc ils pouvaient pas... Donc les impacts les plus importants. Alors pendant très longtemps la bagarre a été menée et ils ont gardé ça. C'est le fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début je vous disais quand ils ont occupé ce terrain-là et qu'ils se sont répartis famille par famille, la règle était simple, c'était qu'on avait un lopin de terre, je me souviens plus exactement. Pour la mémoire, je sais pas bon dans les chiffres, on va aller dire de 20 mètres par 30, et puis il y a de quoi construire sur un étage et un petit jardin dans un carré où il y avait plusieurs pâtés de maisons comme ça, et où il y avait une école, et puis il y avait un jardin public, et puis il y avait une bibliothèque, etc. Et ce lopin de terre t'était attribué en tant que famille, la famille Pérez Mamani, voilà, t'avais ton lopin de terre et il t'appartenait. Mais il t'appartenait comme une sorte d'autorisation d'occupation du territoire. C'est-à-dire que tu pouvais le revendre, mais avec l'autorisation de la communauté, à des prix contrôlés, et pas à n'importe qui.
Éviter la spéculation.
Pour éviter totalement la spéculation, pour éviter les infiltrations X, Y, Z, pour éviter la zizanie, des gens qui débarquent, toute autre culture. Donc, et ça a duré pendant très longtemps. Peu à peu, ça s'est dilué en partie, parce que, ça serait long aussi à développer, mais il y avait toute une partie des terrains de la ville qui étaient restés vierges en attente d'une hypothétique renaissance agricole qui était compliquée. C'était quand même la partie la plus compliquée de faire de l'agriculture en plein dans ce désert-là. Et ces zones-là qui sont restées relativement friches, à un moment donné, il y a eu une énorme OPA financière des grandes surfaces chiliennes. Les Chiliens sont les rois des supermarchés. Et donc, c'est un moment donné où la ville avait besoin de beaucoup d'argent. Ils ont loué, puis vendu, puis etc. Voilà. Donc, c'est la dilution. Alors, pour moi, c'est pas... bien évidemment, on ne peut pas considérer ça comme des sortes de victoires. Mais c'est à relativiser dans le temps, dans le sens où, pour moi, quand je dis que ça a été une immense, et ça reste en partie, mais ça a été une immense expérience autogestionnaire à une échelle gigantesque, c'est que, de toutes les façons, ça a duré des années, des décennies. Alors que si on compare, c'est une comparaison idiote parce que comparaison n'est pas raison, mais on dit la Commune de Paris, c'est quoi?
C'est du deux mois.
C'est extraordinaire. Alors, ils ont beaucoup plus bouleversé le monde que Villiers le Salvador ne l'a fait, puisque la Commune de Paris, en parlant. Enfin voilà. Mais il n'empêche, les conséquences, les influences que Villiers le Salvador a eues un peu partout en Amérique latine, voire au-delà, sur plusieurs décennies, c'est énorme. Voilà.
Et puis c'est unique dans l'histoire, de toute façon.
Voilà.
C'est-à-dire qu'un élément spatial de cette taille-là ait pu durer de manière autogérée pendant aussi longtemps, quel que soit son statut actuel maintenant, pour l'instant, c'est absolument unique dans l'histoire. On a strictement rien d'autre qui compare sur une même durée. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là dans ces émissions, c'est pour parler de Christiania, pour comparer. Christiania, ça a duré exactement le même temps, ça continue à durer exactement le même temps que Villa El Salvador. Ça a l'avantage, Christiania, qu'ils sont encore réellement complètement autogérés. Ils ont trouvé une structure juridique géniale pour l'extérieur et qui n'a aucun poids à l'intérieur. Mais Christiania, c'est 1000 personnes. C'est pas du tout 500 000 personnes. Donc là-dessus, il y a une différence d'échelle absolument considérable. Je voudrais te poser une question, parce que là, à nouveau, moi, je pensais en termes de Christiania aussi. Maintenant, tu viens de dire que Lima et Villa El Salvador sont maintenant jointes. Elles sont voisines. Villa El Salvador devient presque un quartier de Lima, si on pourrait presque commencer à dire ça. Peut-être que ça le deviendra. Espérons que non, en un sens. Mais Est-ce que cette communauté urbaine autogérée, est-ce que pour résister à la mairie qui leur a été imposée de l'extérieur, est-ce qu'ils ont discuté de la possibilité de se réduire en petits quartiers qui redevenaient chacun autonomes?
Non, je crois que ça n'a pas été... En même temps, c'est les phénomènes de... C'est les moments conjoncturels particuliers. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une opposition permanente entre... c'était plus sournois que ça, entre la mairie et la communauté urbaine. Parce que d'ailleurs, toutes les premières années, la plupart des militants, puisque c'était tous des gens qui étaient militants, qu'ils soient à la mairie ou à la communauté urbaine, c'était pratiquement les mêmes. Ils changeaient de casquette. Ils avaient une fonction. Le gars, il était à la communauté urbaine, il avait été spécialiste de l'approvisionnement en aliments. Puis à la mairie, tout d'un coup, on disait, tiens, on va mettre en place un programme d'approvisionnement en patates de l'ensemble de la ville. Et ben, le meilleur qui savait faire ça déjà à la communauté urbaine, c'était Pépé Mamani. Alors, on le faisait venir, etc., etc. Donc, il y avait... Et au milieu des deux, il y avait le centre d'information, d'éducation, etc., qui travaillait vraiment pour tout le monde, avec la télé, la radio. Donc, il n'y avait pas... Mais l'opposition, elle était finalement... la division était distillée comme ça, insidieusement. Personne s'en est vrai. Enfin, personne, je ne sais rien, si personne, mais... Ça n'a pas été perçu dès le début comme quelque chose de frontalement opposé. C'est peu à peu que, sournoisement, les lois, les normes, l'État imposant, dire « Ah oui, non, là, c'est... Non, la communauté urbaine, vous pouvez plus faire ça, puisque maintenant, la mairie est là. Elle va faire office d'eux. » Mais après, ce que je crois vous avoir dit l'autre fois, il y avait quand même quelque chose qui a... et je pense que ça existe toujours. C'est la résistance absolue des gens de cette ville à payer l'impôt. La ville, la municipalité, elle a besoin d'impôts pour vivre. Mmh. Et même en collectant l'impôt, le pot qu'elle arrive à collecter, etc., c'est dérisoire ce qu'elle collecte comme impôt. Je crois que c'est un $0.5 par an et par personne. c'est que dalle. Bon. Mais pourquoi les gens ne payent pas d'impôts? Ils disent, communauté urbaine autogestionnaire. Ils disent, attendez, cette ville, c'est nous qui l'avons construite de A à Z, c'est nous qui l'entretenons, il y a besoin de faire quelque chose. On fait comme autrefois, machin, on fait. Mais on n'a aucune raison de payer des impôts à des bureaucrates, des machins, etc. Non, on paye pas d'impôts. Donc, la ville a un mal de chien à collecter l'impôt. Alors, ils ont inventé tous les systèmes de l'impôt solidaire, l'impôt coopératif, l'impôt machin, etc. Mais c'est un mal de chien à marcher. Et ça, c'est quelque chose qui n'est même pas démentiellement politique, au sens, il n'y a pas un tract qui dit... Non. C'est l'héritage de 50 ans, et c'est l'héritage surtout des premiers mois, premières années, etc., qui ont fait que cette ville n'existe que parce qu'il y a eu cette gestion urbaine.
C'était fort collectif, voilà. Ouais.
Et là où je crois que c'est important, puis ça on l'avait pas tellement abordé l'autre jour, je suis en train de lire, c'est un bonhomme qui a été oublié en France, quelqu'un que vous connaissez peut-être, vous, qui s'appelle Jacques Ellul.
On a oublié. Non, c'était une plaisanterie, ça. Non, Jacques Ellul, effectivement.
Voilà, Jacques Ellul, que moi je connaissais, honnêtement.
Un type extrêmement important.
Je ne connaissais absolument pas, qu'on appelle le protestant anarchiste.
Tout à fait.
Voilà. Et il développe vachement ça dans les années 60 et quelques, sur l'importance politique du fait qu'à un moment donné, les humains refusent de déléguer la gestion de l'espace où ils vont vivre à la toute puissance de l'État, la toute puissance de l'administration, la toute puissance, etc. Les gens disent non. Là, c'est ici que nous vivons, c'est nous qui allons déterminer. Et c'est une bataille de liberté qui est gigantesque, parce que c'est de là où tu vis, de comment t'es installé, que tu te forges aussi ta conscience des choses, ta conscience des relations au monde. Et c'est une dimension, je l'ai toujours perçue, mais de manière presque intuitive. Mais je l'avais jamais pensé comme ça jusqu'à ce que ces jours-ci, je lise, je dis, mais bon Dieu, bon sang. Alors, c'est pas du tout une spécificité à Villers-Savoir. Partout dans le monde, les gens se battent pour dire, vous me transformez ma ville, vous me transformez mon paysage, vous me transformez mon espace vital, etc. Ça va pas. Et ce sont des bagarres, en fait, extrêmement politiques. Voilà.
Ah oui, c'est ce qu'on retrouve dans les ZAD. Alors peut-être plus dans des coins de campagne que dans les villes, parce qu'en fin de compte, peut-être que dans les villes, on accepte plus, quoique, avec les jardins de...
Mais oui, dans les villes aussi.
Les gens sont battus, même si... pour conserver leur...
À nouveau, moi, je voudrais dire que j'adore écouter Jean-Michel parler de ces choses de Villa Salvador, parce qu'à chaque fois, je fais la comparaison avec Christiania. D'un côté, Christiania a mieux résisté, parce que il n'y a pas de doute, à l'intérieur, c'est encore 100% les christianites qui décident. Mais il y a eu un peu le même phénomène que l'État, il est toujours là, l'État, la commune, etc., il réclame ceci, et effectivement, il y a toujours ces négociations, on a besoin de ça, si vous voulez ça, il va falloir... Alors, ce qui s'est passé avec Christiania, je le rappelle, c'est qu'à un moment, il y a eu un gouvernement de droite, donc il voulait qu'il y ait des termes de droite, des termes capitalistes, et donc maintenant, les christianites sont propriétaires de Christiania, point, point, point. En fait, c'est que c'est une fondation qui est propriétaire du terrain. Mais les membres de la fondation ne sont pas des membres de la fondation, ce sont des actionnaires. Alors c'est un truc absolument stupide. Donc on peut acheter des actions pour devenir membre de la fondation qui est propriétaire de Christiania. À ceci près que la fondation n'exerce aucune autorité, zéro, à l'intérieur de Christiania. Et ce qui se passe depuis donc 50 ans, c'est qu'ils ont réussi à continuer à complètement autogérer leur truc. C'est très explicite. Hein, au Danemark, on est une société hyper alphabétisée. Alors, tout est sur papier, tout est très clair. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Il y a une transparence totale dans Christiania pour toutes les décisions. On peut pas faire des machins par derrière. S'il y a des coteries, s'il y a des clans, s'il y a des gens qui se soutiennent entre eux, tout le monde le sait, c'est très évident. Et à la première assemblée générale, tout le monde en parle. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a été extrêmement utile. Donc, un processus insidieux, un processus sournois, ou tout simplement un processus qui est un peu déguisé, ne serait-ce qu'à cause du temps qui passe. Par chance, à Christiania, ça ne peut pas se passer. Et puis, ils ont une patience de fou. Et là-dessus, je peux donner ma grande nouvelle sur Christiania, parce que là, j'en peux plus. Ils essaient de me retenir, mais je saute au temps bas en disant « je suis content ». Christiania, tout le monde, beaucoup de gens le savent, à Christiania, il y avait, notez l'usage de l'imparfait, un marché du shit. Alors, personnellement, je suis tout à fait pour la légalisation du cannabis, évidemment. Mais ce marché du shit, il avait ce problème que c'était une espèce d'abcès de fixation qui attirait tout un tas de gens extrêmement désagréables, dont tout un tas de dealers. Certains étaient des gens très bien et d'autres étaient des purs salopards. Et puis surtout, on va dire que les 20 dernières années, c'était tenu, évidemment, dans les coulisses par les Hells Angels. Bon, ce que je m'en peux recommandable. Eh bien, ça y est, c'est foutu, c'est fini, ils sont plus là. Dans ce mois d'avril, ça y est, c'est terminé. Ils ont été virés. Et pas virés par... c'est pas les supermarchés chiliens qui ont racheté les lieux. C'est les christianites qui reprennent les lieux. Alors, je reçois la newsletter de Christiania très régulièrement. Et donc là, depuis 3 mois, la discussion dans la newsletter, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces espaces? Alors, il y a un tel qu'à tel projet, il y a une telle qu'à tel projet. Enfin, bref, ils sont en train de discuter. Je suis persuadé que ça sera très bien. Mais c'est fabuleux. C'est un changement colossal. Et c'est un changement qui a lieu, évidemment, en un sens avec la bénédiction de la police, mais quand même, c'est un changement qui a eu lieu grâce aux christianites. Et à nouveau, voilà, la comparaison avec les problèmes de Christiania, avec les problèmes de Villa El Salvador, c'est super intéressant, parce que Villa El Salvador, si j'ai bien compris, n'a pas eu vraiment de gros problèmes de criminalité, à moins que je me trompe beaucoup.
Non, un peu. Un peu, mais c'est pas grave. Non, pas gigantesque.
Voilà. Alors que le problème central de Christiania, ça avait d'abord été les drogues dures, et puis ensuite, non pas les drogues douces, mais le marché des drogues douces. Donc je suis ravi, et puis dans l'émission qui suivra, qui sera le Proton sera vif, je répéterai cette grande nouvelle.
C'est bien.
Et tu vois, c'est marrant parce que les histoires de la sécurité, je rencherai un tout petit peu là-dessus parce que c'est non négligeable. Alors bien évidemment, le contexte est extrêmement différent, mais il y a quand même, justement, ça a été un des problèmes, entre guillemets, de relation entre la communauté urbaine de la ville, les organisations traditionnelles, les multiples organisations traditionnelles des gens, et puis la municipalité. La municipalité tendant l'obligation, même si elle a été pendant au moins 20 ans aux mains d'une gauche, et d'une gauche assez radicale d'ailleurs, d'obédience à la fois mao, chrétienne, peu importe, assez radicale, ils étaient obligés de jouer et de composer avec les lois de l'État. Donc, à un moment donné, ils étaient même contents. Quand il y a eu les histoires de guérilla avec le sentier lumineux, etc., ils étaient contents d'avoir un très gros commissariat au centre de la ville. Plus gros commissariat, il n'a jamais vraiment résolu grandes questions sur les questions de délinquance, qui venaient progressivement. C'était pas énorme, mais ça venait progressivement. Il y a toujours eu, à l'époque, c'était pas des histoires de drogue, etc., mais j'ai énormément d'histoires de vol et d'assalt, de braquage. Ça, c'est depuis le premier jour. Et justement, puisque c'est depuis le premier jour, les organisations traditionnelles, les organisations classiques, traditionnelles, en majorité indienne, mais aussi les syndicats, etc., des gens qui ont construit les premières maisons, les premiers quartiers de la ville, ces organisations sont entrées en action immédiatement dès le premier soir. Et là, les femmes, on rebondit un peu, les femmes ont joué un rôle essentiel. Parce que, dans un tout premier temps, quand on est à Villa Salvador, c'est une époque où il y a beaucoup de boulot pour les hommes en ville, 30 bornes, chut. Donc ils sont obligés de faire 2 km à pied, ils rejoignent ce qu'on appelle la Panaméricaine Sud, la route, il y a des bus qui les emmènent à Lima, il y en a pas, enfin bon. Et là, les trois quarts du temps, dans la journée, les femmes, elles restent seules dans le quartier. Et là, bien évidemment, les ozos qui veulent braquer viennent essayer de braquer. Et là, il y a les premiers groupes d'autodéfense qui s'organisent. C'est-à-dire que les femmes, surtout à la tombée de la nuit, même en été, il fait nuit tôt à Lima. Il fait nuit vers 6h, 6h30. C'est pas l'équateur, mais pas loin. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, personne n'est encore couché, qui fait quand même nuit noire. Il n'y a pas d'électricité, puisque la ville n'existe pas encore. Il y a des tranchées partout. On ne connaît pas les gens. Et donc c'est très facile de se faire raquer. Et donc, là, il y a les premiers groupes d'autodéfense qui vont perdurer, se développer, etc., et être extrêmement efficace. Parce que là, c'est beaucoup plus la culture amérindienne venue des Andes que la culture des syndicats, ou libertaires, ou Coco, ou Mao, etc. Et dans les Andes, on ne plaisante pas avec la sécurité. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle des rondas campesinas, des rondes paysannes de surveillance face à des ennemis potentiels, des voleurs de bétail, des fois l'armée, la police, une guérilla pas très sympathique, etc. Et on est habitué à se battre avec des frondes, des fusils, des machins, etc. Et ça ne plaisantait pas du tout. La sécurité pour protéger les gens, ça n'a pas plaisanté. Et il ne faisait pas tout à fait bon d'être voleur pris en flagrant délit à Villa Salvador dans les premiers mois, voire les premières années. Il est même une des traditions. Alors là, après, l'organisation officielle et puis bientôt les mairies, etc., ont dit, oh, vous pouvez pas faire ça, mais eux, ils avaient l'habitude. Ah, c'était pas tous les jours, faut relativiser, mais il pouvait arriver qu'on fasse comme dans les Andes, un gars qui était pris flagrant délit de vol et de viol ou un truc comme ça, il était crucifié. Alors on lui mettait pas les clous dans les mains, mais le mec il était quand même sur une croix comme ça au soleil pendant la journée entière, et on lui faisait comprendre qu'il fallait, c'était mieux qu'il recommence pas. Je termine après sur la phase suivante, qui est que ces groupes d'autodéfense, avec la participation de beaucoup de femmes, ont continué à jouer un rôle important pendant plusieurs années, parce que après, il y a eu crise économique, etc., moins de boulot, les hommes sont revenus, puis il fallait construire la ville elle-même, etc. Donc les hommes, ils étaient à nouveau beaucoup plus là, il y avait plus de bière, plus de machin, plus de fiestouilles, bon, il y avait femmes battues, violence masculine, les gens de Villasseur n'étaient en rien des saints sur les questions de rapport homme-femme, ils étaient dans une société traditionnelle machiste coloniale et traditionnelle machiste indienne. Et donc, les groupes de femmes ont joué un rôle énorme dans la protection des femmes, enfin entre elles, et à tel point que c'est des trucs auxquels on ne peut pas penser au point de départ. Ces femmes-là ont déploré l'évolution de la construction des maisons en dur, en brique, parce qu'elles disaient, quand là, une fois que c'était construit en dur, on entendait beaucoup moins ce qui se passait à l'intérieur. Alors qu'avant, nous, on savait tout de suite quand une femme était battue, et on débaroulait. Et puis on attrapait le bonhomme, on le sortait, et puis on attrapait notre sœur.
Sur la croix.
Et on. Pas jusque sur la croix. C'est là, c'était quand même les maris, les frères, les sœurs de. Donc c'est ce genre de détails, c'est incroyable. Parce que les bonnes femmes, quand elles. Moi, les premières fois qu'elles m'ont raconté ça, elles rigolaient. Elles disaient, tu passais entre les maisons qui étaient en paille, en paille tressée. Alors, t'entendais, hein, si le couple, il s'amusait bien, t'entendais tout, alors on rigolait, tout ça, puis on allait ailleurs. Et puis si, dans la maison d'à côté, là, le mari, il était en train de mettre une rouste à sa femme, alors on rentrait dans la maison, on l'attrapait, et pht, on sortait, on allait protéger la femme. Enfin voilà.
Ça, c'est donc, l'action directe. Hein.
Oui, c'est l'action directe totale. Ah non, je dis plus rien parce que c'est bon. Non, voilà. Dernier truc que je voudrais dire sur les histoires des évolutions et des changements profonds, il y a des changements qui sont politiques, qui relèvent de l'ordre du politique, etc. Il y a aussi beaucoup de changements qui relèvent de l'ordre du sociologique. C'est-à-dire que la ville, elle a grossi par le nombre de gens qui sont nés. Mais elle a continué à grossir aussi par le nombre de gens qui viennent de l'extérieur. Parce que les gens, il y a plein de gens aussi qui, de Villa Salvador, s'en vont ailleurs, tenter leur chance ailleurs, à l'étranger d'ailleurs. Mais chez les gens venus des campagnes ou des montagnes, bah, les gens ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. C'est plus les mêmes types. Alors il y a énormément d'héritage, énormément d'héritage, de culture qui se mêlent, mais c'est plus les mêmes que dans les années 70. Il y a 50 ans, c'est... voilà. Donc, quand ils arrivent à Villa El Salvador, leur apport n'est pas aussi fondamental qu'il l'était il y a 50 ans. Parce que ça, je l'ai vraiment dit les deux dernières fois, je dis ça, c'est... On ne peut pas expliquer Villa El Salvador sans l'apport essentiel, culturel, du monde amérindien des Andes. Cette organisation absolue à tous les niveaux, du travail, de l'économie, de l'agriculture, enfin tout. Voilà.
Alors, là-dessus, si je peux rebondir là-dessus, parce que...
Tu n'as pas de gens des Andes, la Christiane, hein, s'il te plaît. Hein.
Il y en a bien eu un ou deux quand même. Non, c'est le fait, les apports de gens nouveaux. Alors là-dessus, Christiania, en un sens, a résolu le problème d'une manière qui est à la fois pas fabuleuse, mais qui concrètement donne plutôt d'excellents résultats. Et on va dire que pendant les 10 premières années, c'était facile, relativement facile, d'entrer à Christiania, de s'installer à Christiania. Et puis, on va dire, oui, au bout des 10 premières années, c'était plein comme un œuf. Donc ça devenait nettement plus difficile d'entrer à Christiania. Et maintenant, depuis, je présume, au moins 20 ans, si pas 30, c'est vraiment très, très, très difficile. Donc Christiania a décidé, c'était une vieille décision, mais là, pour le coup, c'est vraiment appliqué de manière très, très ferme, qu'on entre sur liste d'attente. Et la liste d'attente, c'est... 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et si tu veux de la musique maintenant, oui, mais...
Termine.
Ah, mais dans ce cas-là, il y a un truc qui vient juste d'arriver, que je viens juste de voir dans la newsletter récente, et qui m'a laissé sur le cul. Christiania, au départ, c'est des jeunes. C'est des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Mais là, maintenant, il y a un problème avec le fils d'une femme qui est morte. Il était en ville. Il est revenu dans l'appartement dans Christiania de sa maman. Et pour lui, c'est clair et net, il est dans l'appartement de sa maman, donc il y reste. Et en revanche, le reste de Christiane a dit mais t'étais pas sur la liste d'attente. Et là, tout d'un coup, il y a ce truc auquel souvent on pense pas dans les sociétés autogestionnaires, et en particulier dans ces sociétés rapides pleines de jeunes. L'héritage, mais t'en fais quoi? Mais attends, c'est sa mère. C'est l'appartement de sa mère. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est tout aussi juste dire, disons, mon salaud, attends, là, dans cet appartement, il y a une liste d'attente avec 200 personnes. Pourquoi est-ce que tu passerais devant ces 200 personnes? D'autant que la liste d'attente ne donne pas tous les détails. Je n'ai pas l'impression que ce soit un gamin de 15 ans. Si c'est un adulte de 30 ou 40 ans, évidemment, ce n'est pas la même chose que si c'est un gamin de 15 ans. Je pense que c'est plutôt un adulte de 30 ou 40. Et là, tout d'un coup, ça pose un problème. Et après la pause musicale, peut-être que Jean-Michel pourra nous dire des choses étonnantes sur la politique de l'héritage dans Villa El Salvador.
Eh ben, c'est cool.
¿Qué se dice, comadre Carmen?
Compadre Lara, cuando usted quiera comer con sabor a norte, el frito tiene que ser con yuca, la causa con su camote, el espesado con su pescado y el cabrito con su clarito.
¡Qué rico, comadrita!
C'est parti.
Ça y est, oui, précisément. Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et c'était, alors, attention à l'accent, Carmen Zita Lara, non, c'est pas ça, c'est
oui, bien.
Assis à celle norte, j'arrive pas à lire, le rrr. Voilà.
C'est bien.
Oui. Assis à celle norte.
Ah oui.
Oui, non, si. Mais lui, il saurait faire, Jean-Michel, il saurait mieux faire, mais...
Non, tout le monde...
Il aime bien se moquer de ton accent.
Là, il y a de quoi.
Sur l'histoire de l'héritage, c'est la seule chose que je puisse dire vraiment, c'est que, en fait, ça a été un des aspects qu'ils ont eu à gérer dès le départ de la fondation de la ville. Mais là, il y avait l'apport, ce qu'on venait d'évoquer juste il y a deux minutes, il y avait l'apport du monde andin. Le monde andin, majoritairement, pas partout, c'est le monde andin n'est pas quelque chose de complètement homogène, et en fonction des régions, la relation avec la colonie a été d'une manière ou d'une autre, etc. Mais disons que globalement, quand même, il y a dans chacun des villages, ils avaient préservé quelque chose assez ancien et précolonial, qui est que c'était une sorte de propriété collective de la terre qui appartenait donc à un village, à un clan, à une, voilà. Et puis ensuite, cette terre-là était chaque année re-répartie aux familles du clan, du village, et en fonction d'un certain nombre de critères. C'était d'ailleurs pour un an en général, un an, deux ans, mais c'était pour des périodes courtes. Et c'était pour faire tourner les très bonnes terres, les moins bonnes terres, les terres du haut, les terres du bas. Fallait faire gaffe aux veuves. Il y avait un homme qui était mort. C'est là fallait donner une terre meilleure à la veuve parce que c'était plus compliqué, elle et ses mômes, etc. Entrait une multitude de critères dans la répartition des terres en chaque début d'année ou chaque fin d'année. Donc voilà, c'était pas il y avait donc la plupart des gens qui ont débarqué à El Salvador, qui étaient des gens d'ailleurs officiellement, du point de vue de la société péruvienne, des sans-terres, parce qu'ils étaient sans-terres au sens de la propriété privée issue de la pensée coloniale et de la société dans laquelle ils vivaient. Ils n'étaient pas complètement sans-terres, puisque dans ces terres pourries, entre guillemets, pourries, hein, tout à fait entre guillemets, pourries aux yeux des gens des vallées du système, ils avaient une gestion extrêmement précise des espaces de territoriaux, et qui était aussi d'ailleurs lié à des histoires de construction, et qui était aussi lié à des histoires qui va concerner la planète entière très très vite, c'est la gestion de l'eau. L'immense bordel qui est la gestion de l'eau dans les montagnes avec les fonds des neiges, les fonds des glaces, tout là, et l'agriculture en pente comme ça. Enfin voilà, c'est ce qui a fait aussi la richesse de l'agriculture. Alors ils sont descendus avec tout ça à Lima et ils l'ont adapté, comme je disais tout à l'heure, très vite en disant bon. Alors ils ont bien compris que là, il n'était plus question, ils n'avaient pas changé de maison toutes les trois minutes. Voilà. Mais ils ont maintenu cette règle qui est que c'est à nous sans être vraiment à nous. C'est à nous, c'est à la communauté du quartier. Et on ne peut pas en faire ce qu'on veut, ni du point de vue du pognon, ni du point de vue à qui on le revend. Mais on a le droit de le revendre. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, voilà comment c'est géré la question de l'héritage. Ce qui a grandement changé. Mais encore que, très très longtemps, et je ne sais pas si encore maintenant, parce que je ne suis pas tous les trois jours à Villasor, hein, mais il y a vraiment des moyens de contrôler aussi qu'il n'y ait pas une spéculation, qu'il n'y ait pas des mouvements spéculatifs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tout d'un coup des gens qui viennent acheter 10, 20, parce qu'il y a eu ça à un moment donné, et ils ont contrôlé 10, 20, 30 baraques dans le Villa, déconstruire l'autorisation, du bout de terrain, ça ne coûte rien. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire.
Moi, ce qui me semble vachement bien là-dedans, c'est que le fait, dans ces communautés andines traditionnelles, le fait de re-répartir les terres systématiquement, c'est un énorme avantage à la fois psychologique et sociologique. On remet les choses sur la table tous les ans. Et ça, c'est drôlement bien pour la transparence. Et en t'écoutant, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu similaire à Christiania? Non, bien sûr, parce que les lieux ne changent pas de main tous les ans. Mais le fait quand même qu'à chaque fois que s'il y a quelqu'un qui part ou quelqu'un qui meurt, donc qu'un appartement devient libre, à nouveau depuis au moins 30 ans, le processus de sélection est public. C'est pas du tout un truc privé, c'est pas je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est un truc qui se passe au cours d'une assemblée de quartier au strict minimum et en ayant consulté les dites listes d'attente. Et là, à nouveau, l'avantage est que ça remet les choses sur la table constamment. Je pense que l'une des pires difficultés qu'ont les groupes humains, c'est que justement, si on ne remet pas tout sur la table régulièrement, les choses s'enquistent, les relations de pouvoir grandissent, et les relations de domination grandissent, et ça c'est très dangereux. Alors que ce processus que tu décris, moi ça me semble extrêmement sain. Et même si maintenant ils peuvent plus le faire autant à Villa El Salvador qu'ils le faisaient, puisque c'est plus une question agricole, mine de rien, que la répartition de l'espace, la communauté ait toujours son mot à dire, ça me semble absolument fondamental.
Mais je dirais juste, je rajoute un tout petit truc, parce qu'il m'envoie une perche là. C'est que il y a un autre élément, c'est que pour gérer tout ça, en fait c'est très compliqué, c'est beaucoup de boulot. Et donc, le fait d'être chef d'un clan, le fait d'être chef d'un village, le fait d'être chef de la répartition des terres, d'être chef de la répartition de l'eau, d'être chef de la gestion des conflits, etc., c'est un sacerdoce. Parce qu'en plus, quand tu es choisi, tu t'engages à respecter ta parole. T'es pas élu pour 5 ans ou 10 ans. Tu peux être dégagé au bout de 2 mois et quasiment à coup de pioche sur la tête. J'exagère. Mais donc tu bosses beaucoup. Et donc ça a un avantage, et qu'il y a eu pendant longtemps à Villa El Salvador même d'ailleurs, c'est que les chefs de quartier, les responsables de quartier, les responsables du syndicat, les responsables de l'eau, les responsables de l'école, etc., les gars, ils demandaient qu'une seule chose, c'est que ça se termine. Ils cherchaient pas du tout à rester. Donc il n'y a pas la formation d'une bureaucratie, de la même manière qu'il y a eu formation de la bureaucratie à la mairie. À la mairie, il y avait déjà un peu plus, pas beaucoup d'argent, des impôts, mais un peu, il y avait quand même des ONG, un peu, l'État, un peu d'argent, pim-poum-poum, une voiture de fonction, une ci, une ça, là. Et il y a une bureaucratie gentillette. Hein, c'est pas la bureaucratie dans les années 30 à Moscou, hein. C'est gentillette. Mais bureaucratie quand même, un peu. Mais pas chez les autres. Chez les autres, les gars, ils disent waouh, moi non, l'année prochaine. Ah, moi, je remplis le pas pour les routes du quartier, etc. Ça, c'est plus moi. Moi, j'ai autre chose à faire. Faut que je bosse. Voilà. Donc, c'est important dans la question du rapport à la représentation, dans la question du rapport au pouvoir, et dans la question de la circulation du pouvoir. Alors que tous, hein, que ce soit les caciques dans la société traditionnelle indienne, les petits chefs syndicaux, libertaires, maoïstes, trotskistes, ils avaient quand même tous tendance à ce truc latino-américain du caudillisme. Mais quand t'es caudillo, mais que t'as les mains dans le cambouis, t'es un vrai caudillo, pas au palais, t'es un caudillo local, C'est pas forcément le métier idéal d'être caudillo. C'est il faut être un peu curé pour être caudillo où ça va. C'est parce que là tu bosses moins, c'est moins fatigant. Encore que, pour être honnête avec eux, il y avait des curés qui mettaient la main à la pâte et qui bossaient comme des chiens. Voilà. Bon, enfin voilà.
Non, c'est extrêmement important ce que tu dis. Alors à nouveau, à la fois Christiania mais aussi le Rojava. À Christiania, les postes comme ça, il y en a pas tant que ça, mais les postes à responsabilité pour la communauté, principalement les gens qui tiennent la comptabilité en gros. Bien évidemment, c'est pas payé. C'est totalement bénévole. Or, bon, ça n'a pas du tout l'échelle, à nous, une communauté de 1000 personnes, c'est pas une communauté, c'est pas une ville de 500 000 personnes. Enfin, c'est quand même un putain de boulot de chien malgré tout. Donc, ce ne sont que des volontaires. Ça leur vaut peut-être un petit peu de prestige et encore pas beaucoup parce que tous les gens qui ont demandé qu'on leur prête ci, qu'on leur prête ça et ces pauvres comptables ont dit ah ben non, niette, désolé, ou bien il faut demander à l'Assemblée et puis on voit bien que la comptable dit à l'Assemblée, attendez, ça va nous coûter des fortunes. C'est très très bien parce que à Christiania, le peu de postes qui auraient pu éventuellement créer des situations de pouvoir, c'est des postes pas agréables et qui ne comportent pas d'avantages matériels et de statut. Et puis, ça m'a fait penser également ce que tu disais, à un truc au Rojava. Alors, le Rojava et puis les Kurdes et donc ce parti célèbre, le PKK, hein, le parti de Tchalan, etc., qui fut d'un parti stalino-marxisto-maoïsto, tout ce qu'on veut, sto, et qui, dans les années, à la fin des années 90, a fait sa mue. Et reste à la fois un parti extrêmement intense, très étroitement géré, mais qui est en tout cas conscient du fait qu'il risque de devenir un parti dominateur, un parti autoritaire. Et l'une des choses qu'ils font, et ça je dois avouer, j'ai été épaté, tous les militants de ce parti, tous, alors, c'est comme l'Église catholique officiellement, ils ne peuvent pas avoir de propriété personnelle. Mais c'est réel. La règle est qu'ils dorment chez l'habitant. Toujours. Tout le temps. Ils n'ont pas de logement à eux. Ils dorment chez l'habitant. Ils bouffent chez l'habitant. Alors, ça veut dire, premièrement, que s'ils font des trucs dégueulasses, au bout d'un moment, bah, qui va accepter de les loger? Qui va accepter de les nourrir? Non, mais c'est brutal. Je ne suis pas en train de dire que dans les sociétés anarchistes, on devrait avoir un groupe de gens comme ça. Mais je veux dire, pour éviter que tu aies des militants qui entrent au parti parce qu'ils veulent du pouvoir, parce qu'ils veulent du fric, parce qu'ils veulent les nénettes, parce qu'ils veulent ceci, ça. En plus, systématiquement, cette histoire de dormir chez l'habitant, il faut que ça soit un homme et une femme, pas des amants. Il faut juste que ce soit un homme et une femme. Donc là, pareil, il ne peut pas y avoir un sexe qui prend le pouvoir sur l'autre. Les deux se contrôlent l'un l'autre. J'en ai vu quelques-uns, j'en ai pas vu beaucoup. C'était pas des pauvres qui mendiaient, mais c'était visiblement pas non plus des gens riches. Et alors évidemment, ne parlant pas la langue, ne parlant pas le kurde, je pourrais pas me prononcer sur les rapports réels entre ces militants et puis les gens entre guillemets normaux, en tout cas pas militants. Enfin. Personne ne se levait quand ils entraient, on leur baisait pas la main. Je pense qu'ils étaient respectés, mais respectés comme tout le monde est respecté. Et ça, je pense que c'est un truc absolument fondamental dont il faut se souvenir, quelles que soient les sociétés autogestionnaires, anarchistes, libertaires, quel que soit le nom qu'on y met, s'il y a une possibilité de pouvoir, et parfois il y a des nécessités que des gens aient une certaine dose de petit pouvoir, il faut pas qu'il y ait d'autres récompenses que le simple fait de se dire, pour ces gens-là, je suis en train de faire quelque chose de bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres récompenses, point. Dès qu'on introduit une autre récompense, c'est foutu, l'engrenage se met en route.
Joli.
Ah oui, hein.
Joli. Alors pour la petite histoire quand même, son PKK, le PKK.
Le PKK.
Oui, PKK, là-bas on dit...
Et en France, on dit PKK.
Ah oui, mais ça sonne...
voilà. Alors, à l'époque, si on remonte à l'époque, c'était... l'organisation cousine germaine du Sentier Lumineux au Pérou.
Ah oui, non, ils ont été...
Sauf que... Voilà, c'est pas relativisé, d'ailleurs, faut être plus précis. Ils étaient dans la même organisation internationale. Mm-hmm. Il y avait l'international des Mao, tu sais pas quoi.
Quelle
famille internationale. Non, les Mao, c'est des Mao, Mao, je sais pas quoi. Les Mao, je sais pas quoi.
Ah bah oui, si, c'est les Mao, pardon.
Donc, il y avait le Sentier Lumineux au Pérou, il y avait les Naxalites en Inde,
oui.
Et il y avait le PKK, et puis encore un ou deux... au Népal, pendant un an, où on n'est pas là, je ne sais plus. Et puis donc le PKK. Et le PKK était un très fort soutien du Sentier Lumineux, etc. Dommage que le Sentier Lumineux n'ait jamais tiré les enseignements du PKK dans ses capacités, ses possibilités d'évolution, parce que c'était quand même vraiment... Lui, il n'avait retenu que de Mao et de Staline que... voilà, 1 million de morts, c'est que dalle. C'est le sang, le sang irrigue la révolution.
Voilà, oui, oui.
Voilà. Mais tu vois, au sens, alors il n'empêche que, je rebondis aussi quand même sur cet aspect-là, qui est que, à l'époque, dans la société péruvienne de la fin du XXe siècle, avec un féminisme naissant, mais essentiellement, voilà, chez les bobos liméniens, enfin, c'est débile de dire ça, mais un peu chez les gens, avec la fac, il n'y avait pas un mouvement féministe, il n'y avait pas, on était loin de ce qui se passe à l'heure actuelle à l'échelle de la planète. Ceux qui ont observé tous les phénomènes du Sentier Lumineux, de la crise généralisée du Pérou de l'époque, et de Villel Salazar, n'ont absolument pas mesuré l'impact, la fonction des femmes dans cette situation. Et là, les femmes, aussi bien, et c'est pour, en partie les mêmes raisons d'ailleurs, aussi bien à Villel Salazar que dans le Sentier Lumineux, elles ont joué un rôle déterminant. Et le Sentier Lumineux, qui était une organisation complètement fracassée de la tête, extrêmement sectaire, assassine, eh ben, accordait un rôle gigantesque à la femme, dans toutes les instances, à tous les niveaux, hein, jusqu'à la direction, dans toutes les instances, etc. Et même, moi, il m'est arrivé de discuter avec des gens qui étaient quand même relativement proches du Sentier Lumineux, etc. Et moi, je m'étonnais, je disais, mais comment ça se fait qu'ils avaient ce qu'ils appelaient les commandos d'extermination? Ce qui est le nom, l'agréable
c'est,
nom.
C'est sans équivoque. Hein,
commando de aniquilamiento. Et oui. C'était souvent des femmes. Et je m'étonnais un peu connement d'ailleurs, à vrai dire. Je m'étonnais un peu bêtement. Des femmes, etc. Et la réponse, à plusieurs reprises, hein, de gens qui ne se connaissaient pas, était la même. Elle disait, mais les femmes sont les mieux à même pour reprendre la vie, c'est elles qui la donnent. Et là, tu rentres dans un truc, tu vois, là, t'es pas à la fac de sociologie à la Cato à Delima, t'es chez des jeunes nanas qui ont été élevées dans des villas, mais qui ont été aux études, qui ont été instits, qui ont été ici, etc., mais qui ont été forts, et qui ont, voilà, une vision des choses dans lesquelles s'insère ce truc-là. Et voilà, nous, on donne la vie, on la reprend. On peut la reprendre. Mmh. Alors, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon, ça c'est pour le Sentier Lumineux. Rôle très important des femmes dans le Sentier Lumineux. Et rôle très important donc des femmes dans le recrutement possible pour le Sentier Lumineux. Et donc dans l'épanouissement entre du Sentier Lumineux. Parce qu'il avait beau avoir des commandos d'extermination, des discours, vraiment barrés. Mais en même temps, si on lisait et on étudiait, c'était pas que barré, c'était toujours sensé, c'était toujours réfléchi, c'était toujours stratégique, et il se disait vraiment des choses. Les gens ont pas étudié ça, et enfin, comme souvent d'ailleurs avec l'histoire de terrorisme ou pas, on analyse premier degré, on a le nez, Et à Villa El Salvador, c'est exactement la même chose, sauf qu'à Villa El Salvador, comme c'est justement une société qui n'était pas sur des commandos d'extermination, mais sur des comité de quartier de construction, ce qui n'était pas
exactement la même chose.
Pas tout à fait la même chose. Les femmes ont joué un rôle gigantesque et elles ont pu le développer et l'épanouir. Ce qui fait que, à un moment donné, on s'est retrouvé, d'ailleurs, dans les moments où ça a été très chaud avec l'armée, la police et le Sentier Lumineux, à Villa El Salvador, il y avait un truc qui s'appelait la Fédération des femmes de Villa El Salvador, où il y avait près de 40 000 femmes qui étaient organisées. Imaginez, c'est tout sauf n'importe quoi. Et les cheftaines, entre guillemets, quand elles disaient il faut aller revendiquer au palais présidentiel, demander telle aide de l'État pour la bouffe, pour le ci, pour l'école, pour les salaires des enseignants, etc., quand ils y allaient, elles ont mobilisé 10 000 personnes, 10 000 bonnes femmes qui avaient quand même plein d'autres trucs à faire. Il fallait manger. Elles descendaient en ville et il y a eu en particulier cette femme dont on a parlé, je crois, une des autres fois, mais très très peu, qui s'appelait Maria Elena Moyano, qui était, elle, alors pas du tout d'origine andine, c'était une métisse de descendants d'esclaves africains, elle était de la côte, et qui a été une dirigeante absolument incroyable, parce qu'elle était à la fois, elle n'était pas élulienne, elle savait pas qu'il existait, mais elle était très révolutionnaire, elle était très radicale, elle était ultra féministe, féministe très ouverte, parce qu'elle posait déjà à l'époque des questions de liberté sexuelle. C'est pas évident, hein, dans un monde indien, catho, elle posait toutes ces questions-là. C'était énorme. Et elle a fait bouger les consciences des femmes d'abord, des hommes, et elle a permis à ce qu'elles prennent un poids que la crise économique leur permettait d'autant plus. Parce que quand l'homme, il a du taf dans ces sociétés-là, d'autrefois, gageons que ça a changé un peu, encore que... Voilà, le gars, c'était lui le nourricier. Et le nourricier, c'est le boss. Le mec qui ramène le pognon à la maison, c'est lui qui commande. Et puis les autres, ils ont qu'à juste la fermer à la maison. Hein, et puis ils se boivent trois bières, les autres ne mangent pas, il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais le jour où il n'y a plus de boulot, comme il y a eu pendant la crise, qui coïncidait complètement avec toutes les histoires, avec le sentier lumineux, la violence, la guerre civile, etc., il n'y avait plus de taf. Donc les gars, ils revenaient avec rien. Alors déjà, ils buvaient beaucoup moins de bière, s'ils n'avaient pas le pognon pour se l'acheter. Et ils ne pouvaient pas piquer le pognon aux femmes, parce qu'ils n'en avaient pas. Mais les femmes, au moins, elles étaient organisées en cuisine collective, en comité d'approvisionnement, elles faisaient la bouffe ensemble, elles distribuaient la bouffe ensemble, etc. Et là, ça leur conférait un sacré pouvoir, parce que Zozo, là, toi, tu veux me foutre sur la gueule? Oui, mais tu vas pas manger ce soir. Je l'ai fait bande dessinée un peu, parce que... Mais c'était quand même grandement ça. Et elles ont pris un pouvoir énorme, et que elles n'ont jamais relâché, et je pense que c'est un des éléments, c'est pas le seul, hein, mais dans l'influence culturalo-politico-sociale de Villers-Salvador dans l'ensemble du pays, c'est un des éléments les plus importants. C'est-à-dire cette émergence des femmes, mais des femmes, tu vois, il y a eu des femmes, il n'y a pas eu qu'elle, il y en a une autre, je cherche son nom, puis je le trouve plus, qui a été aussi une dirigeante des cuisines collectives. La nana, moi, je l'avais connue 2 ans avant, elle n'arrivait pas à aligner 3 mots d'affilée devant un public tellement elle était terrorisée. Elle n'avait jamais été aux écoles, elle savait peut-être même pas lire, pas écrire, etc. Et moi, je l'ai vue 2 ans après intervenir devant le Parlement. C'était hallucinant. Elle a parlé comme elle n'arrivait pas bien à déchiffrer. Elle a pris son truc, quelqu'un avait dû lui écrire. Hein. Elle a mis de côté et boum, elle est partie dans un discours fleuve où il y avait la vraie vie. La vraie vie, les vraies revendications, les vraies douleurs, les vraies peines, les vraies joies, les vraies fraternités, etc. Elle a fait voler tout en éclat, quoi. Et ça, c'est un élément déterminant. Enfin, vraiment, de l'histoire de Villers-Salvador, c'est un des éléments déterminants. Et d'ailleurs... Et après, j'ai fini, je parle plus.
Non, mais si, c'est là pour ça.
Et d'ailleurs, le sentier lumineux s'est bien rendu compte du poids. Les dirigeants du sentier lumineux, je pense, j'étais pas dans leur tête, mais je pense qu'ils comprenaient bien l'importance, sinon ils l'auraient pas joué, eux aussi, l'importance des femmes, du rôle de la femme, etc. Ils auraient pas mis autant de dirigeantes, etc. Et avait bien conscience que c'était un enjeu sociétal majeur et qu'il y avait possibilité de recrutement parce que les femmes voulaient plus que les hommes encore que la société bouge, la changer, la transformer, y compris violemment et peu importe, etc. Et donc, Villers-Salvador est devenu, pas que pour cette raison, mais en bonne partie pour cette raison, est devenu un concurrent. C'était insupportable. Villers-Salvador était la démonstration potentielle qu'on pouvait faire la révolution en dansant, en faisant la fête, en travaillant et
Sans la violence
et hein. sans s'entretuer. Et donc ça, c'est pour le sentier lumineux, c'était insupportable. Et parce que c'était un vrai concurrent, et à la limite, c'était le pire des ennemis. C'était pire que l'État. C'était démontrer que l'État, c'est un ennemi, mais c'est logique. Et donc, Villers-Salvador te grattait, là. C'est pas comme ça. Faut pas faire comme ça. Et donc, quand il y a eu vraiment ce développement des attentats, quand le sentier lumineux a décidé, on dit, bon, allez, on va en finir avec Villers-Salvador, parce que si on veut prendre le pouvoir, j'étais persuadé qu'ils pouvaient le prendre. D'autres en face croyaient aussi qu'ils étaient capables de le faire, hein. Il faut que, à Lima, avant de faire l'offensive finale sur Lima, etc., il faut que, on en finisse avec Villers-Salvador, qui est le symbole de ce qui se passe dans plein d'autres bidonvilles. Il n'y avait pas que Villers-Salvador, hein, c'est vrai. Et donc, ils ont commencé, attentat ci, attentat là, etc. Et en fait, l'attentat final, ça a été l'assassinat de Maria Elena Moyano, qui était la dirigeante principale, qui, 3 jours avant, était dans un discours historique en disant « Mais qui vous êtes? Venez donc. Sortez les cagoules. Venez à visage découvert discuter des programmes. Dites-nous ce que vous pensez politiquement. On va discuter, etc. Mais ne tentez pas de nous faire peur. Vous ne nous faites pas peur. Ici, personne ne reculera jamais. Et si un jour vous en tuez l'une d'entre nous, la ville entière se soulèvera. » Et ils l'ont tué. Et 3 jours après, ils l'ont tué. Et ils l'ont tué de manière complètement sordide, parce qu'ils lui ont mis une ceinture de dynamite autour du corps, et ils l'ont fait exploser. Devant les autres femmes d'une cuisine collective. Le truc cool. Et ben, historiquement, c'est incroyable, mais historiquement, le sentier lumineux, donc, qui existait depuis, plus que ça, mais dans la guérilla, depuis 11 ans, que personne n'arrivait, la police, les services de renseignement, l'armée, l'homme, machin, ils n'arrivaient pas véritablement à venir à bout de ce mouvement de guérilla qui était très balèze dans l'histoire de la clandestinité, dans le cloisonnement de la clandestinité, etc. Dans un pays où, en plus, c'est assez facile, dans le monde andin, de faire l'omerta. Comme dans Tintin, enfin, là aussi, je fais bande dessinée. Dans Tintin, c'est des mecs qui posent des questions et les Indiens répondent « no sé, no sé, no sé ». Là, c'est pareil, c'est des mecs qui débarquaient, c'est « no sé ». C'est où les guérillos ?« No sé ». Et ben, du jour au lendemain, le Sentier Lumineux a signé son arrêt de mort en tuant Maria Elena Moyano. Les langues se sont déliées. Ils ont dit non, là, c'est trop chaud, là, vous avez fait ça, fallait pas.
Il n'y avait plus le soutien, effectivement.
Avant, je dirais que c'était pas le soutien. Il y avait un bout de soutien d'une partie de la population et les autres disant ah, nous, on balance pas. On balance pas. Mais là, on balance parce que là, c'est devenu l'ennemi principal et ils nous ont tués. Ils nous l'ont tué. Et donc, ça a été une bascule. Ils l'ont tué, je me souviens pas des dates, je suis très mauvais dans les dates. Bon, on va dire février, 15 février, je crois d'ailleurs. Ils l'ont tué le 15 février, et le 12 septembre, Abimael est en tôle. Putain, le mec, ils n'avaient jamais pu trouver, tous les autres jamais pu les trouver, etc. En deux temps, pas deux temps, trois mouvements, 6 mois.
Mais en très peu de temps.
Très peu de temps. Tu démantèles une guérilla parce que t'as fait. Et d'ailleurs, eux, une fois en prison, etc., interviewés à plusieurs reprises, quand ils ont commencé à accepter, à dire un peu ce qu'ils pensaient de la vie, avant la mort, ils sont au moins 2, si mes souvenirs sont bons, à haute direction, à avoir reconnu que ça avait été une grave erreur. Quoi.
Est-ce que je peux faire un petit, non pas un parallèle, mais truc que...
Allez-y, parce que les auditeurs ont compris que je ne sers plus à rien ici. Mais tant mieux.
Mais on t'aime, Fabrice.
Non, mais je me sens pas. Tant mieux, justement. C'est bien. Il n'y a pas de chef, donc. Mais c'est vrai qu'on m'a pas entendu. Hein.
Alors, c'est Jean-Manuel. Exactement un parallèle que je veux faire parce que c'est une trajectoire complètement différente, mais qui a eu aussi une très grande influence, un très beau résultat. Donc, c'est les femmes au Rojava. À Christiania, le problème était infiniment moindre. Alors qu'au Rojava, pareil, on était dans une société monstrueusement patriarcale. Et vous le savez sans doute, dans le PKK et dans les organisations satellites du PKK, il y avait dès le départ beaucoup de femmes. Et puis, c'est à la fin des années 90. En même temps, il y a eu le fameux Öcalan, le leader qui est toujours en prison en Turquie. Et puis, les femmes du PKK, des organisations satellites, qui en même temps se sont dit « Mais oh, maintenant il y en a ras-le-bol, on ne peut pas libérer l'humanité en libérant que la moitié. Nous les femmes, désolé, il faut qu'on soit libres aussi et on va commencer à prendre notre destin en main. » Et je rappelle que les femmes kurdes qui sont du côté du PKK et de ces organisations satellites, elles ont créé leurs propres organisations militaires. Alors qui, fort heureusement, ne sont pas du tout barrées comme le Sentier Lumineux, qui essayent, tout comme les autres organisations militaires kurdes, de tuer le moins possible. Elles sont là pour défendre les Kurdes et la Révolution, puis pas que les Kurdes, ils ont défendu les Yézidis, et pour défendre éventuellement les femmes aussi. Et je rappelle que maintenant, au Rojava, quand un monsieur veut faire un mariage, quand un monsieur veut faire imposer un mariage forcé à sa fille, d'abord, si sa fille vient se plaindre, elle vient se plaindre à la maison des femmes, et après, on demande au monsieur de venir à la maison des femmes. S'il veut pas venir à la maison des femmes, ce sont les femmes qui viennent chez lui. Et s'il veut toujours pas entendre raison, quelques jours après, il va débarquer 10, 20, 30 nénettes avec des kalachnikovs. Et c'est des nénettes qui ont utilisé ces kalachnikovs pour descendre des gars de l'État islamique. Donc c'est des vraies combattantes dures, tu les évacues pas comme ça. Et ça, ça a quand même fabuleusement bien marché. Et on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de maris violeurs ou violents ou de pères abusifs qui aient été abattus par ces groupes-là, parce qu'en général, T'es tout seul dans ta maison, puis tu vois débarquer 30 personnes, en tout cas, toutes armées jusqu'aux dents, et tu sais que c'est toutes des combattantes. T'as en général tendance à écouter ce qu'elles te disent.
Mais c'est vrai aussi, moi, dans les documentaires que j'ai vus ces deux dernières années, là, le phénomène, il existe aussi chez les Kurdes d'Iran et les Kurdes de Syrie. Moi je me suis jamais eu le temps de me poser la question, mais il doit y avoir un phénomène quand même historique, je sais pas quoi, hein, qui fait que les femmes dans le monde kurde jouent aujourd'hui à ce point-là un rôle déterminant. Et
les femmes kurdes étaient clairement moins opprimées que les autres femmes, on va dire, dans les pays musulmans. Ça, c'est un fait très important. Pays de montagne. Où il y avait aussi souvent justement cette dialectique du le bonhomme il est loin excuse-moi,
il est loin du micro
moi j'étais loin du micro. Donc il y a cette dialectique du bonhomme qui est loin, et puis c'est les femmes qui font tourner la marmite entre temps. C'est incontestable que les femmes kurdes sont pas parties de rien. Elles sont parties de très très loin, c'était quand même très évidemment une société très patriarcale, mais c'était pas aussi brutal que les autres sociétés patriarcales voisines, on va le dire comme ça.
Alors Jean-Manuel va nous quitter.
Mais je reviens dans 20 minutes pour commencer le Proton sur Bif, mais il faut que j'aille chercher notre technicien. Donc voilà. En tout cas, mille merci Jean-Michel.
Merci à toi.
Voilà. Bah, merci de nous avoir accompagnés.
Et moi j'y vais aussi.
Ah mais c'est pas tout seul. Malheureux. Quand on va passer quelques annonces. Mais on va conclure. Il faut au moins 5-10 minutes pour conclure.
Bah voyons.
Pas avoir comme il est, Jean-Michel.
Oui, il laisse des bouts de jeun.
Très intéressant.
D'accord.
Bon, alors, comment on pourrait conclure sur... je suppose que de toute façon, enfin, c'est pas que je suppose, la politique a changé un petit peu dans la Via El Salvador, évidemment, ça a évolué avec les générations se succèdent, ouais, mais ne se ressemblent pas.
Oui, non, c'est pas seulement ça, c'est aussi parce que, quand même, ce continent, j'aime même pas le pays, ce continent passe sa vie dans une sorte de révolution permanente, de bouleversement, avec des oscillations, avec tout d'un coup, et lié à un fou furieux comme il y a en Argentine. Là, mais en même temps, deux mois après, avec des manifestations monstres contre lui, etc., les syndicats d'enseignants. Donc on est là-dedans depuis des années, depuis longtemps, depuis très longtemps d'ailleurs. Et au Pérou, je dirais que en fait, il y a une sorte d'impasse politique. Il y a une sorte d'impasse politique qui fait que plus personne n'y retrouve ses petits. Et donc, Via El Salvador, comme les autres, n'y retrouve pas leurs petits. Conséquence des phénomènes comme Via El Salvador et comme les accumulations d'expériences passées. Il y a quelques années, donc, il y a un gars qui se fait élire, qui est lui-même d'ailleurs un ancien Mao, d'une organisation qui n'était pas très loin du Sentier Lumineux d'ailleurs. Il se fait élire président de la République. Sur un mode... qui pouvait séduire grandement, qui a séduit, c'est pour ça qu'il a été élu, qui a séduit énormément dans les campagnes. Alors dans les campagnes, il a été littéralement plébiscité, il avait des résultats à la Ceausescu, il avait du côté de Puno et du lac Titicaca, il avait 90-92% de voix en sa faveur. Parce que le gars, il parlait des vrais problèmes des Indiens des hauts plateaux, des Indiens de frontières boliviennes, etc. Dans les villes, le succès a été moins grand, mais il a été énorme. Et dans les entre guillemets bidonvilles, les anciens bidonvilles, etc., son discours populaire, et non pas populiste, son discours populaire, ne pouvait que séduire. Il parlait de plus d'égalité, de meilleurs revenus. Voilà. Donc, et le gars, en plus, il prétendait qu'il allait tourner la page de plusieurs années, voire une bonne décennie de corruption généralisée, qui est aussi un grand sport national dans bien des pays, hein, où plusieurs présidents ont été démis ou ont été mis en prison, ou comme Alain Garcia, qui était un ami de la France, qui s'est carrément suicidé le jour de son arrestation. Une situation comme ça. Et son propre gouvernement tombe. C'est un guet-apens, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une sorte de guet-apens. C'est pas vrai c'est pas vraiment moi qui l'a tapé dans la caisse, mais il y a l'histoire de gestion mal. Voilà. Et le gars, il tombe et il va en prison. Et là, son bras droit, une dame, qui était prétendument à gauche, etc., elle assume pleinement de prendre la suite, elle assume pleinement le coup d'État, elle assume pleinement d'avoir une politique qui relève, c'est pas Milei en Argentine, mais et surtout, elle assume pleinement face à la révolte du monde rural, du sud du pays en particulier, d'envoyer l'armée, la police, de tirer, etc. Donc, on est quand même dans une, situation politique qui est très complexe, très controversée, déboussolée. Mais enfin, c'est pas propre au Pérou, quoi. C'est le problème, c'est que c'est un peu planétaire cette histoire de manque de repères et de manque de boussole, avec des enjeux. Mais en même temps, les gens, ils ont pas le choix. Enfin, c'est comme partout ailleurs, d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Là, les combats, qui sont énormes, ils vont tourner autour de questions qui ne sont pas environnementales en tant que telles, qui sont sociales-environnementales. C'est-à-dire qu'en ville, il y a des bagarres de l'eau. L'eau, c'est fondamental. Il y a plein de villes au Pérou où l'eau, c'est la cata. Et les bagarres, là, elles se mènent à ce niveau-là. C'est la pollution de certaines usines qui sont incroyables. C'est dans les Andes la réouverture de mines dans des conditions catastrophiques et moyenâgeuses, ou ultramodernes d'ailleurs, mais qui ne les rendent pas moins polluantes, et où on est en train de spolier les gens, on est en train de piquer les terres. Enfin voilà, on est en train de repartir comme en 14 sur d'autres vagues de bagarres sociales, mais dans un contexte national, régional, continental et mondial assez compliqué. Ouais, où les références ne sont pas simples.
Oui, mais je crois que c'est vrai, effectivement, pour tout le monde, je crois que les gens ne votent plus spécifiquement pour un parti, pour une idéologie, mais pour celui qui va apporter du confort ou de la sécurité. Voilà, c'est plus idéologique, en fait, les
soutiens politiques. Mais là, je crois qu'au Pérou, si le vote n'était pas obligatoire, plus personne ne voterait. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Là, on est dans un contexte où personne ne voterait. Déjà, même quand c'est obligatoire, il y a plein d'endroits où les gens, finalement, n'y vont pas. Mais là, c'est un désenchantement, j'aime pas le mot, c'est un mauvais mot, mais on n'est pas entouré d'horizons enchantés, nulle part. Mais il n'empêche que partout, il y a des gens qui se bougent, et en plus dans des pays où il n'y a pas le choix, quoi. Enfin, nulle part il y a vraiment le choix, mais là il y a vraiment pas le choix.
Je pense que partout où les pouvoirs justement vont être de plus en plus autoritaires, c'est déjà le cas. Hein,
c'est ça.
Plus les gens vont s'organiser en fait à la base. Donc,
c'est ça.
C'est un petit peu de l'espoir quelque part que tu nous amènes dans cette émission.
Il faut toujours.
Ah oui.
Il faut toujours.
Ah non, on se disait, tiens, on va tous crever là, alors la guerre avec Poutine.
Alors, je sais plus qui est-ce qui disait ça, encore un illustre, je sais pas quoi. Quand il n'y a plus d'espoir, reste l'espérance. Tu vois, voilà. Et puis il y a une autre formule que j'aime bien, c'est celle de Victor Serge. C'est que c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Ça, j'aime beaucoup celle-là. Ouais. Il faut bien se battre. C'est l'histoire de l'humanité. Hein. C'est l'histoire de l'humanité depuis. Mais là, c'est vrai que on est. Enfin, c'est pas forcément nous, mais la génération qui vient là. C'est chaud les marrons, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Tout est extrêmement imbriqué et dans un monde extrêmement autoritaire, avec une puissance de contrôle qui est énorme. Alors, en même temps, si t'es sur les hauts plateaux des Andes, t'es beaucoup moins contrôlé, mais encore, c'est même pas vrai, parce que maintenant, avec toutes les histoires d'Internet, même le plus petit village des Andes d'Amazonie,
il a la Wi-Fi et contrôlé. À distance.
C'est incroyable. Alors, avec avantages et inconvénients. Parce que le plus petit village des Andes, aujourd'hui, il te dit, et le monde entier le sait à la seconde qui suit, que la mine machin qui appartient aux Anglo-Suisses australiens viennent de polluer les rivières de je sais pas quoi et viennent de détruire je sais pas trop quoi. Et zou, et tout le monde est au courant. Et les... Voilà. Donc, mais l'inverse est vrai aussi, quoi. C'est... Bon, franchement, je sais pas. Moi, j'ai une confiance aveugle dans un truc. C'est que quand plus rien ne fonctionne de tous ces trucs-là, reste, tu vois, les saltimbanques, les poètes, les cultures, les, tu vois, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, pas seulement au Pérou, hein, en Bolivie, au Chili, ouais, il y a un socle culturel, qui est d'une puissance énorme. dans lequel il y a la magie, la politique, la poésie, voilà. Et on rêve. Si tu rêves pas, tu changes pas le monde. Si
bah, sans doute, c'est vrai que moi je suis pas trop rêveur en fait.
Donc, mais faut
ni poète.
Non mais poète c'est pas grave. Poète c'est pas grave, mais si tu ne rêves pas, tu peux pas aspirer. Enfin tu vois, ce que je veux dire c'est.
Ah mais je suis peut-être plus proche du senti lumineux, hein, attention.
Il rêvait aussi, il rêvait.
Ouais. Moi je fais de la provocation là.
Non. Enfin voilà, c'est comme. Mais bon, je me gourre peut-être, c'est. Mais tu vois, je pense même que dans les territoires occupés à l'heure actuelle, il y a des mecs qui pensent à écrire des poèmes, qui pensent à faire un coup de peinture, qui pensent à faire une chanson, une pièce de théâtre.
C'est sûr que si on pense que
les camps de concentration
va faire qu'empirer ou ça ne va jamais changer ou ça va. Oui, autant se suicider tout de suite.
Et là, bienvenue à ton émission, mais à tout le boulot que vous faites ici, mais il y a un autre aspect. C'est qu'on est dans une société, on est dans un monde, on a une étape de la société, là, où on essaye de faire que... De prendre le contrôle, c'est des grandes phrases bidons, mais prendre le contrôle sur la pensée, sur les pensées, etc., et de faire en sorte qu'on nous gave. D'ailleurs, nous gavons, y compris en quantité. Ouais. Voilà, tu veux de l'info sur le Rojava. Bam, tu y vas. 250 000 pages. Tu trembles, tu sais plus où donner de la tête, etc. Tu comprends plus rien. Bon, etc., etc. Et en même temps, ce gavage-là fait que ça ne nous incite pas à penser, à réfléchir, etc. Et dans tout ce phénomène, il y a, je crois, une véritable offensive. Je pense qu'elle est très consciente, d'ailleurs, que je pense que ce monde nous invite à l'amnésie. Tu vois, notre histoire, l'histoire passée, pas la nôtre, pas forcément la tienne ou la mienne, et celle de nos parents et grands-parents, notre histoire collective, commune, etc., ici, là-bas, etc., elle est à entretenir, elle est à faire vivre. Entretenir, à faire vivre, parce que c'est notre socle. C'est nos racines, pas au sens cucu, c'est des racines. Après, en plus, on est libre d'en changer, nos racines.
Moi, je veux évoluer, en tout cas.
Voilà, c'est ça. C'est... Et puis, moi, j'ai envie d'avoir les racines du Rojava. Vraiment, personne ne va m'interdire. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, là, tout ce boulot de mémoire, tout ce travail de mémoire, je pense qu'il est, c'est déterminant. C'est déterminant. Et à Villa El Salvador, pour conclure sur Villa El Salvador, il y a plein d'endroits de travail de la mémoire, dont en particulier des théâtres qui sont des théâtres massifs, où les gens viennent massivement au théâtre. Et il y a un mec qui a, je sais pas ce qu'il fait depuis les 2-3 dernières années, parce qu'ils ont eu vraiment des problèmes avec le Covid, mais juste avant le Covid, il avait fait une expérience qui était énorme. Il écrivait en progression une pièce de théâtre sur l'histoire de la ville avec le public qui venait régulièrement. Mais tu vois, tu pouvais avoir dans le public, tu avais des soirées où tu avais 300, 400, 500 personnes. Et donc, il y avait à la fois la pièce qui se jouait, et déjà le recueillement de témoignages, de machin, etc. Des gens qui prenaient des notes, et puis après ils se donnaient des rendez-vous, etc. Et puis la pièce allait en évolution. Énorme.
C'est quelque chose.
Hein. Énorme. Énorme.
Bon. Ce sera la conclusion.
La conclusion, cher ami.
Voilà. Ah oui, t'entends peut-être pas, mais il y a le chat qui miaule pour me dire qu'on arrive à la fin. Donc, alors.
C'est grave, docteur ? Ça va ?
Je vais faire quelques petites annonces. Le 25 avril 1974, nous célébrerons le cinquantenaire de la révolution des œillets. Donc, à ce propos, vous pourrez, au 145 rue Amelot, chez Publico, voir un documentaire sur « Changer de vie » de Nelson Guerrero et Pedro Fidalgo. Ça s'appelle « Grande de la Villa Morena », c'est ça ? De José... Ouais, sur les... Non, pardon.
José Vera.
Non, c'est sur José Mario Branco, ouais. Qui est un auteur, un musicien. Voilà, j'essaie de faire vite. Ce sera le mercredi... Merci Jean-Manuel d'éteindre la lumière. On lit beaucoup mieux dans le noir. Mercredi 17 avril à 20h, donc au 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e. Donc ça, tout ça, c'est pour les auditeurs. Parisien et auditrice, et c'est 116 minutes quand même de projection en présence des réalisateurs. Donc, comme ça, à 20h, vous n'allez pas vous coucher de bonne heure. Voilà. Si vous voulez, Jean-Manuel veut dire quelque chose.
Changer de vie, il y a un super bouquin de Jean Guéhenault qui s'appelle exactement comme ça, Changer de vie. C'est un bouquin magnifique et je vais probablement faire une émission dessus. C'est sorti depuis fort longtemps, mais c'est trouvable dans les cahiers rouges de chez Grasset, mais je le recommande vivement. Changer la vie de Jean Guéhenault.
Et alors, donc, comme c'est la révolution, là, le cinquantenaire de la révolution des œillets, il y aura aussi une projection de documentaire, ça c'est beaucoup plus tard, le 18 mai. Nous, ouvrières de Sceaux-Ganthal, donc c'est sur une autre vision de la révolution des œillets, c'est au 33 rue des Vignoles, dans le 20e, à Paris, 18 mai, 15h. Et c'est Pix 94 qui nous propose ça, cette projection, débat. Je sais plus où j'en suis, je n'ai pas plaire partout, comme d'habitude. Voilà. Un appel de l'AFA pour soutenir des camarades italiens.
Ah oui,
appel
oui.
à rassemblement, solidarité avec les compagnes et compagnons de Rome contre leur expulsion programmée par le pouvoir néofasciste. Donc, effectivement, ils avaient un lieu de vie où ils sont, ils vont être expulsés. Donc, vous pouvez les soutenir en écrivant à Cafiero Ferroroma. Eh bien, écoutez, vous irez sur Internet. En tout cas, il y a un rendez-vous à la Librairie Publico, 55 rue Amelot. Dans le 11e, le 17 avril, à 19h. Voilà. Et puis, une autre petite aussi, c'est le colloque du 27 avril 2024, éducation autogestionnaire coopérative et libertaire, divergence et convergence, c'est à l'espace AERI, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Donc 27 avril 2024, c'est toute la journée, pratiquement de 9h30 jusqu'à la clôture après 19h. Et vous aurez des informations sur notamment le lycée autogéré de Paris, des nouvelles, puisqu'ils sont en bien mauvaise posture en ce moment. Voilà, j'ai fait vite pour laisser la place au Proton se rebiffe, il est 21h. Merci Jean-Michel d'être venu
merci
pour la
vous,
troisième fois,
vous,
ça nous a fait
fois.
Plaisir encore une fois. Merci Jean-Manuel, t'as très bien animé l'émission. Merci Bénédicte d'avoir fait la technique. On espère le 29, hein, parce que Eric n'est pas venu, j'ai carrément oublié qu'il y avait une émission ce mois. C'est dit. Merci à tous, au revoir.
Au revoir.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Pleure en sourdine, que j'ai le cœur au froid. Je mets ma pèlerine et je vais chez François. Dans cette chaumine, la rue Quincampoix, qui a ses grises mines, j'ai mon feu de bois. Quand ma ville elle mine, se moque de moi, je pose ma mandoline et je vais chez François. Dans cette vitrine, les filles de joie, ne vous en chagrinent, sont filles de roi. Que fièvre me mine, ou qu'un mal me broie. Foin de médecine, je vais chez François. Dans cette officine, de mauvais aloi, la tendre Chopine ne soigne que moi. Que brise marine me tente parfois, je bouche mes narines et je vais chez François. Dans cette berline, blottie à l'étroit, je pars pour l'Argentine sur mon pas de froid. Que la mort combine mon dernier tournoi. Au diable, matine, j'irai chez François. Sur cette colline, mon caveau à moi, il y a une orpheline en forme de croix. Quand je pleure en sourdine, que j'ai le cœur en froid, je mets ma pèlerine et je vais chez François.
Radio Libertaire 89.4.
proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.